Vous avez vu ces cantiques, c'est des cantiques pleins de victoire, de grâce. Alors j'aimerais commencer cette exhortation avec un psaume, enfin le verset d'un psaume 142. Lorsque je priais cet après-midi, ce verset s'est vraiment imposé à mon cœur. Peut-être que quelqu'un va comprendre que... Est-ce qu'on sait toujours où on en est avec Dieu, au fait? Est-ce qu'on sait toujours où on en est? Ce verset nous rassure, psaume 142, psaume 42, verset 4. C'est un très très beau verset. Moi, c'est un verset qui m'a fait beaucoup de bien pour moi et peut-être pour aider les autres. Psaume 142, verset 4. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier sur la route où je marche. Donc Dieu, il sait où on en est. Peut-être que nous ne savons pas toujours où on en est. C'est écrit, hein. La Bible dit que ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Donc, nous pouvons vraiment nous tromper et croire que nous en sommes là, alors qu'en vérité, nous ne sommes pas très au centre, mais au bord, etc. Et nous devons, lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, comme c'est le cas, nous devons vraiment avoir un cœur honnête, car la présence de Dieu au milieu de nous est là pour parler, révéler, guérir. Est-ce que, par exemple, tout à l'heure, on pourrait prier pour un malade et que ce malade soit vraiment guéri? Est-ce que vous le croyez? Bien. Eh bien, c'est ce qu'on fera. Dieu a le pouvoir de guérir. Vous rendez compte ce qu'on a chanté? Je me demande vraiment si on est conscient de ce qu'on vient de chanter. Et il doit y avoir une honnêteté. Alors, on va lire de lecture ce premier verset pour nous rassurer, parce que je sais qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas, il y a des chrétiens qui croient qu'ils vont bien alors qu'ils ne vont pas bien du tout, etc. Jean chapitre 10, 9, 10 et 11. C'est un verset qui résume bien ce qui se passe une fois qu'on a accepté Jésus-Christ. Il devient notre sauveur, mais ça ne doit pas en rester là. Et beaucoup de chrétiens ne vont pas bien parce que Jésus n'est que le sauveur. Jean chapitre 10, verset 9. Jésus indique ce qui se passe. Il dit bien comment ça se doit se passer. Jean chapitre 10, verset 9. « Je suis la porte. » Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça, c'est la croix, ça, c'est la repentance. Mais, regardez bien la suite. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Pas le désert, des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Amen. Dans le psaume 23, que l'on connaît peut-être par cœur, parce qu'il y a des gens qui l'ont appris par cœur à l'école du dimanche ou pour leur plaisir personnel, mais relisons-le s'il vous plaît. Relisons ce psaume. Ce soir, je suis poussé à vous poser certaines questions pour que nous puissions savoir où nous en sommes vraiment avec Dieu. Donc le psaume 23, vous le connaissez. Certains pourraient dire, mais monsieur, c'est même pas la peine d'ouvrir la Bible. Je vais vous le lire, moi. Ben oui, psaume 23, donc ça rejoint ce qu'on vient de lire. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous êtes d'accord avec ça? « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » La suite, nous pourrons peut-être la lire tout à l'heure. Mais je vais commencer à vous poser une question. Parce qu'on doit être dans l'honnêteté. Quand on est sous le regard de Dieu, il faut qu'on soit archi-honnête. Vous êtes d'accord? Sinon, on ne peut pas faire de progrès. Si je vous posais cette question, aujourd'hui, là, ce mois de novembre, votre vie spirituelle, de quoi est-elle faite? Si on devait être honnête, est-ce que notre vie spirituelle, est-ce qu'elle est faite de calme, de paix, de quiétude? Ou est-ce que votre vie spirituelle est tout le temps remplie de craintes, de tourments, de peur du lendemain, etc. Vous pouvez répondre, enfin pas votre voix, mais vous pouvez dire, voilà, en ce moment, ma vie spirituelle, en ce moment, oui, moi je ne suis pas dans les verts pâturages, je suis dans le désert. Mais est-ce que Dieu peut être avec nous dans le désert? Eh oui. Alors, je vais vous poser une autre question importante. Enfin, pour moi, c'est important. Ce n'est pas des questions pièges que Dieu n'approuverait pas. Si vous deviez là, aujourd'hui, dire « Pour moi, en ce moment, le Seigneur, l'attribut qui convient le mieux, c'est celui-ci. » Par exemple, moi, si vous me posez la question, je dirais « Pour moi, l'attribut pour le moment qui me touche le plus, c'est de pouvoir appeler Dieu Père et Père éternel. » Moi, vous voyez, ça me touche. Et pourtant, ça fait 37 ans que je suis chrétien, mais moi, ça me touche vraiment aujourd'hui que Dieu soit mon Père éternel. Ça veut dire, ça va durer quand même. Est-ce qu'il y a des attributs qui vous touchent en ce moment? Quel est l'attribut de Dieu qui vous touche le plus, si vous deviez répondre? Peut-être que vous avez traversé le... Imaginez, vous avez perdu quelqu'un de très cher, Dieu vous a consolé, l'attribut qui viendrait sur votre cœur, c'est « Ah, pour moi, M. Gou, c'est le consolateur. » Oui, ça serait normal. Peut-être que là, dans un mois, vous allez être dans une décision terrible à prendre, mais vous allez recevoir un conseil de Dieu, et l'attribut qui vous toucherait le plus, ça serait « Le Seigneur est mon conseiller ». Voyez ? Et je crois que notre marche avec Dieu est faite d'expériences qui révèlent où nous en sommes avec Dieu, comme quand on a chanté « L'amour du Seigneur, tel un vaste océan ». Peut-être qu'en ce moment, mais moi, Dieu est amour, moi, c'est l'amour de Dieu qui me comble, qui me restaure, qui me guérit, etc. Donc, vous comprenez qu'on devrait quand même être capable de dire, lorsqu'on avance avec Dieu, voilà, pour le moment, ben moi, Dieu est mon secours. J'avais plein de problèmes d'argent, j'étais en difficulté, mais j'ai expérimenté la provision de Dieu, oui, le Seigneur et l'Éternel qui pourvoit. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous dis ça pour que nous soyons amenés à mieux comprendre ce que nous allons voir ce soir, avant de prier, pour quelqu'un qui vraiment a besoin de faire une expérience. Quand on lit, par exemple, « L'Éternel est mon berger, tiens, mais oui, mettez-moi, c'est ce qu'il me faut. » Pour le moment, moi, Dieu est mon bon berger. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez dire? Parce qu'il y a des gens, ils ont lu, ils peuvent chanter « L'Éternel est mon berger ». On a plusieurs cantiques qui parlent du... Mais franchement, est-ce que vous pouvez dire? Ce n'est pas des questions bêtes et piégées. Parce que c'est la volonté de Dieu, que le Dieu soit votre bon berger. Est-ce que vous pouvez dire « Oui, le Seigneur est mon berger. Il me dirige. Ma vie, elle est conduite par sa parole. Je n'ai aucune crainte. Je ne crains aucun mal. » Ça peut arriver d'avoir des combats et des luttes, mais il faut bien séparer les combats, les luttes, de cette assurance qui caractérise quelqu'un qui peut dire « Oui, Jésus est mon berger. » C'est important, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens ne comprennent rien, ils cherchent des révélations. Il y a des gens qui parcourent la terre. Oh, il y a un séminaire, il y a trois prophètes. On m'a dit, j'ai reçu un prospectus, tel prophète. Ah, c'est où? C'est au Japon, on y va. Mais il y a des gens comme ça qui parcourent la terre à la recherche de révélations, de prophéties, et ils ne sont pas à même d'être touchés par des paroles de l'Écriture qui devraient les toucher. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Beaucoup de gens ont accepté Jésus comme sauveur. Mais combien peuvent dire oui, il est mon rédempteur, mais aussi il est mon berger. Il me dirige. Il me conduira dans les verts pâturages. Vous avez lu? Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Je sais que d'un pâturage à l'autre, il peut y avoir des sentiers difficiles. Mais quand même, la volonté de Dieu, c'est qu'un chrétien soit dans les verts pâturages. Mais pour cela, il faut que vraiment le Seigneur soit notre berger. Moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le rêve. Ils rêvent. Ils cherchent des expériences, ils veulent des révélations, des prophéties particulières. C'est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais mes frères et sœurs, je suis persuadé qu'il y a des textes qui sont d'une simplicité totale, comme ceux qu'on vient de lire, « L'Éternel est mon berger ». Est-ce que nous les avons trop entendus? Est-ce que nous ne savons pas écouter ce que Dieu a à nous dire? Moi, je pense que nous devons avoir un cœur d'enfant. Jésus a dit « Si vous ne ressemblez pas aux enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu ». Vous le connaissez, le psaume 23? Vous le connaissez, hein? Vous pourriez le réciter presque tous. Presque, je suis sûr que plein de chrétiens pourraient le réciter presque par cœur. Mais est-ce qu'on l'a appris par cœur? Est-ce qu'on le considère comme un psaume, comme un poème? comme un chant, comme l'expérience que David a faite, ou est-ce que c'est votre expérience? Ou est-ce que vous voulez vraiment que ça devienne votre expérience? Vous vous rendez compte quand David dit, mais il est mon berger, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Moi, je connais plein de chrétiens, ils ont peur de la mort, ils sont effrayés devant la mort. Moi, je vous dis, n'ayez pas peur de la mort, la vie, c'est une bénédiction, le présent, c'est une bénédiction, la vie est à vous, la mort est à vous, le présent, l'éternité est à vous. Est-ce que c'est biblique, ça? Est-ce que c'est des paroles en l'air? Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible? Mes frères et sœurs, parce que quand on lit un verset, il faut quand même qu'on comprenne que c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui le dit. Quand Jésus dit « Je suis le bon berger », il veut être votre berger. Et voyez, la mort, moi je ne sais pas. Moi je crois que la mort, c'est une grâce. Peut-être que ça vous étonne ce que je vous dis. Est-ce que c'est écrit? Eh bien, lisez-le avec moi. Parce que je pense qu'il faut que vraiment les chrétiens n'aient pas peur. Parce que quand même notre témoignage... Est-ce que c'est important de rendre un bon témoignage? Parce qu'en vérité, la conséquence, peut-être on n'en parlera pas, on n'aura peut-être pas le temps, mais la conséquence, c'est le témoignage. Quel est le témoignage que nous donnons aux gens de l'extérieur? Regardez, dans 1 Corinthiens, Paul règle un problème. Il y a des chrétiens qui n'ont pas trop compris. Il y en a qui sont pour Paul, d'autres pour Apollos, d'autres pour Pierre, etc. Et bien sûr, les super spirituels pour Jésus. Mais regardez ce qu'il dit. 1 Corinthiens 3, verset 22. Mes frères et sœurs, ce sont des choses qui caractérisent quelqu'un qui a Jésus pour berger. Tout ce que je vous dis, je l'ai réfléchi, bien sûr, c'est vérifié dans les Écritures. 1 Corinthiens 3, verset 22. Regardez si c'est beau ce témoignage. Soit Paul... Parce qu'après tout, ils se disputaient pour savoir qui était le plus spirituel des pasteurs. En plus, Dieu leur avait donné plusieurs pasteurs. Est-ce que c'est une grâce dans l'Église d'avoir plusieurs pasteurs? Ben oui, on ne doit pas les mettre en rivalité, on doit comprendre que c'est Dieu qui nous les met. Regardez, 1 Corinthiens 3, 22, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, regardez bien, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu, et vous pouvez dire Amen. La vie est à nous, la mort est à nous, le présent est à nous, l'avenir est à nous, l'éternité est à nous. Moi, je trouve que ça va. Non, mais est-ce que c'est comme ça que vous le voyez? Et les gens, ils ont peur du présent, ils ont peur, ils se pardonnent pas le passé, ils ont peur de l'avenir, ils ont peur de l'éternité, ils ont peur de la mort, ils ont peur de la vie, ils ont toujours en peur. Moi, je pense que c'est, si vous êtes dans ce cas de figure, en tous les cas, vous ne pouvez pas dire que l'Éternel est votre berger. Il est peut-être votre rédempteur, parce que vous avez accepté le sang de Jésus-Christ, mais ça ne suffit pas. Le temps qui nous... On mourrait de suite, ça suffirait. Le brigand qui est mort sur la croix, c'était un criminel quand même. Bon, Jésus lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il n'avait besoin que de se repentir. Mais si, imaginons que Jésus lui accordait la grâce, mais non seulement tu vas être mon sauveur, mais tu ne vas pas mourir. Est-ce que Jésus aurait pu faire en sorte qu'il ne meure pas? Ben oui. Je pense que même s'il était resté, il aurait fallu que Jésus devienne son Seigneur, et il y aurait certainement beaucoup de choses à régler dans sa vie. Vous ne croyez pas? Et c'est ce que je veux que nous comprenions, c'est que si nous mourions de suite après notre conversion, il n'y aurait rien à régler. Mais à partir du moment où Dieu nous laisse sur la terre, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 60 ans, comme Monsieur de Dieu qui a 90 ans qu'il est chrétien, vous voyez, il a eu besoin d'apprendre. Est-ce que vous comprenez? Vous avez une idée de son âge, vous voyez? Mais mes frères et sœurs, est-ce que ce soir vous n'aimeriez pas glorifier le nom du Seigneur en disant « Mais il est mon berger, il faut qu'il soit mon berger, et je sais qu'il me conduira, il me dirigera, il me restaurera. » Vous vous rendez compte, les temps qu'on vit, mais ce sont des temps affreux les temps que l'on vit. Et pourtant, vous pouvez avoir la grâce de dire « Mais moi, Jésus me conduit. » Jésus me garde, Jésus m'a fait grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les dimanches matin. Non? Tous les jours de ma vie. Ça veut dire quoi? Qu'on n'aura plus d'épreuves? Mais non! Ça veut dire que justement, dans toutes ces épreuves, le Seigneur me gardera. Vous savez, moi je suis en train de noter tous ces textes. Vous savez, quand il est dit, prenez compte, c'est quand même fort quand même. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de ce verset? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire si vous deviez dire, si quelqu'un de même, tu sais pas, j'ai lu le psaume 23, tu le connais, oui, par cœur. Alors qu'est-ce que ça veut dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires? Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'Éternel est mon berger, quand il va y avoir de l'adversité, il va se passer quelque chose. Alors, pour que vous le compreniez, on va peut-être lire deux ou trois psaumes. Regardez, psaume 92. Je voudrais que nous, vraiment, ça soit concret, mais simple. Regardez, psaume 92, comment David parle de l'adversité ou de ses ennemis. Parce, est-ce qu'on peut avoir des ennemis quand on est chrétien? Ben oui, même Jésus dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre maison. À partir du moment où quelqu'un dans la maison n'est pas chrétien, ça devient un problème, un conflit. Regardez, je voudrais vous lire juste deux textes pour que vous compreniez. Quand je vous disais tout à l'heure, tiens, qu'est-ce que c'est qui correspond le plus, quel attribut est le plus important pour vous en ce moment, il peut y avoir des moments où l'adversité peut être une bénédiction. Regardez, psaume 92, verset 12. Regardez, comment vous avez dans votre Bible? Regardez comment il parle. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà lu, mais enfin, c'est écrit quand même. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Ça vous va ou ça ne vous va pas? Ça ne vous va pas? On a lu un autre, psaume 54. Non mais, vous ne me répondez pas, je ne sais plus que je vais arrêter de prêcher. Psaume 54, verset 9. Allez, un autre texte. Moi, c'est des versets que j'ai soulignés, vous voyez, parce que j'ai compris quelque chose. Psaume 54, verset 9. Il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent à la vue de mes ennemis. Je n'entends pas beaucoup d'amen, mais fait bon. Verset 11 du chapitre 59. Il y en a une vingtaine comme ça de versets. Verset 59, verset 11. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Dieu me fait contempler, je le dis quand même, avec joie, ceux qui me persécutent. Voilà, sans commentaire. Psaume 112, bon, on va arrêter, mais c'est pour vous donner une idée de la compréhension des choses. Psaume 112, verset 8. En parlant de celui, alors il faudrait le lire en entier, mais enfin, bon, c'est celui qui craint Dieu. C'est celui qui craint Dieu. Là, quand même, il faut lire le contexte. Psaume 112, verset 1er. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Il y a tout un contexte. Et le verset 8. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Amen. Un dernier? Allez, un dernier, je l'ai marqué. Psaume 118, verset 7. L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est quand même une expérience progressive. Est-ce que c'est quand même écrit, il n'y en a pas qu'un verset, il y a plein de versets. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur Jésus devient, pas d'une manière théologique ou d'une espèce de rêve, mais d'une manière pratique, quand Jésus me restaure, l'adversité, Dieu va la bénir. Vous le croyez vraiment, ça, frères et sœurs? Si nous avions cette confiance. Mes frères et sœurs, quand David dit « Je ne manquerai de rien », est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire? Je ne manquerai de rien, quand j'aurai besoin de consolation, il me consolera. Quand j'aurai besoin de tendresse, parce qu'est-ce que des moments, on peut avoir besoin de tendresse? Oui ou non? Est-ce que Dieu peut vous apporter de la tendresse? Est-ce que c'est biblique? Bien sûr, vous le savez. L'Éternel est mon berger. Quel est le témoignage que je rends? Parce qu'à moins que je sois en train de découvrir l'Évangile et d'arriver au calvaire et de passer des ténèbres à la lumière, là, il y a tout un autre processus. Mais si vous êtes chrétien, est-ce que vous pouvez dire oui, le Seigneur est mon berger? Il me dirige, il me conduit. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce soir? Vous allez me dire, mais tu ne nous apprends rien. Mais d'accord. Mais est-ce que vous vivez ces choses? Est-ce que vraiment vous allez partir tout à l'heure en disant, mais le Créateur de l'univers, le Créateur des cieux et de la terre, il est mon berger. Je ne peux pas me soustraire à cette grâce, à cet amour. Une brebis, même si Dieu nous compare à des brebis pour indiquer que nous sommes faibles et que nous avons toujours besoin de dépendre du berger, une brebis, elle, d'elle-même, ne va pas se soustraire à la garde du berger. Mais nous pouvons le faire. Pourquoi nous nous soustrayons à la garde du berger? Pourquoi un chrétien rétrograde? Pourquoi un chrétien ne va plus à l'église? Pourquoi un chrétien ne lit plus sa Bible? Mais parce qu'il ne connaît pas. Quand vous connaissez le berger, je peux vous dire que vous avez envie de tout, sauf de vous soustraire à son amour, de vous soustraire à sa protection, de vous soustraire à sa bonté. Les gens qui rétrogradent, et ce n'est pas péjoratif, c'est où ils le veulent, parce qu'ils préfèrent les ténèbres. Est-ce que c'est écrit que les hommes peuvent préférer les ténèbres à la lumière? Donc, c'est un choix. Si quelqu'un veut abandonner, Paul dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, un autre Démas m'a abandonné. C'était un collègue, un pasteur, pour l'amour du siècle présent. Si quelqu'un aime les ténèbres, eh bien, qu'il choisisse les ténèbres. Mais mes frères et sœurs, mais quand vous voulez que Jésus soit votre berger, croyez-moi qu'il le sera. Et que nous ne pouvons pas faire autrement que de dire, mais tu prendras soin de moi. Vous croyez que Dieu prendra soin de vous? Il faut qu'il soit votre berger. Mes frères et sœurs, je pense qu'on ne le glorifie pas quand on n'a pas confiance en lui. Et je ne comprends pas pourquoi Dieu fait ci, et je ne comprends pas pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça, et pourquoi Dieu n'a pas encore... Mais vous croyez que vous le connaissez en parlant comme ça? Quand vous connaissez le bon berger, vous savez qu'il vous conduira. Même si vous pouvez dire, comme on l'a lu au début, « Toi, tu connais mon sentier. Je ne sais pas trop où j'en suis, Seigneur, je ne sais pas trop bien. Mais tu sais où j'en suis, et je te demande de me conduire. Je veux te faire confiance. Il est digne de confiance. » Alors, il faut pas que vous mépreniez. Moi, je crois que le Seigneur, il veut guérir ce soir. J'en suis sûr. Moi, j'en suis convaincu que le Seigneur, que quelqu'un peut expérimenter la guérison dans son corps. Parce que son sang précieux a coulé pour que nous ayons la guérison, le pardon des péchés. Il a donné sa vie pour être notre bon berger. Moi, je donne ma vie. Il a donné sa vie. Il est là, il nous répète. Mes brebis, elles connaissent ma voix. Vous ne pouvez pas douter. Moi, quand je vois des gens qui disent « Ouais, je ne comprends pas pourquoi Dieu... » Mais ils ne le connaissent pas. Et il faut que nous apprenions à le connaître. De telle sorte que nous pourrons dire, eh bien, moi aussi je veux me réjouir de voir l'adversité dans ma vie. Vous rendez compte, vous avez vu les quelques versets qu'on a lus? Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. C'est pas merveilleux ça? Peut-être que je rêve. Mais nous n'avons pas besoin d'une grande révélation. Nous avons besoin de croire que le Seigneur Jésus doit devenir le berger de chacun. Afin que je le glorifie, si demain je parle de lui, comment allez-vous parler de lui? Qu'est-ce que les gens vont penser de vous? Qu'est-ce que les gens vont penser de vous? C'est ça un chrétien? Tout en train de râler, de se plaindre, ou alors tout le temps en train de procurer la paix? Quel est le témoignage que vous donnez? Ça vous choquerait si on vous disait, eh bien moi j'ai parlé avec toi 50 fois, tu m'as jamais procuré la paix. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous diriez, M. Katéko, si je vous disais, ben, j'ai discuté avec vous, M. Katéko, mais vous m'avez toujours fatigué. Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, ben, ça serait temps que vous me le disiez. Comment vous réagiriez si on vous disait, tu rends un mauvais témoignage? Comment vous réagiriez? Sérieusement, ben, là, vous pouvez répondre. Ça vous ferait de la peine, non? Hein, ça ferait de la peine. Comment vous réagiriez si on disait « Ah, mais tu es toujours dans la paix. Même quand tu as des problèmes, tu nous procures la paix. » Je crois que quand l'Éternel est notre berger, quand même, on peut vraiment lui faire confiance. Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Que nous ayons la grâce. Moi, je crois que Jésus va bientôt revenir. Vraiment, je le crois. mais que nous ayons la grâce de dire, mais il est vraiment bon berger. Je ne peux pas faire autrement que de lui faire confiance. Il sait le chemin où je suis, il le sait. Et il va me conduire. Et moi, je veux rendre un bon témoignage. Et je crois qu'il n'y a rien de plus beau qu'un troupeau, qu'une église, qui rend ce témoignage d'une confiance absolue. Il me dirigera près des eaux paisibles. De quoi avons-nous besoin? Comment vous l'avez chanté, fraîche rosée? En rêvant ou en croyant, mais Seigneur, tu vas me rafraîchir? Ce soir, je suis venu et je veux me laisser. Mais il faut qu'il soit notre berger. Parce que je ne sais pas, si après on fait des choix qui nous éloignent du berger, il ne faut pas s'étonner que l'ennemi aussi s'infiltre. Est-ce qu'on peut donner accès au diable? Eh oui. Comment on peut donner accès au diable? Tiens, donnez-moi un exemple. Comment? La colère. Les gens qui sont toujours en colère, toujours énervés. La Bible dit, ne vous mettez pas en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, ne donnez pas accès au diable. C'est sûr que si je suis tout le temps en colère, en vrac, irrité, eh bien, je ne peux pas dire que l'Éternel est mon berger. Si l'Éternel est mon berger, tu vois, Seigneur, cette situation, elle ne me plaît pas du tout. Mais je te fais confiance et je te la remets. Eh bien voilà, l'Éternel est mon berger. Et ne vous étonnez pas si Dieu utilise même des ennemis pour vous bénir. Car je crois, je l'ai vérifié plusieurs fois, le Seigneur peut même utiliser des gens qui sont contre vous pour vous bénir. Écoutez, je ne vais pas prendre le temps, mais je peux vous assurer que c'est infiniment biblique. Notre bonheur, puisqu'il est dit le bonheur et la grâce m'accompagneront, ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de nos forces, ça ne dépend pas de notre intelligence, ça ne dépend pas de nos capacités. Notre bonheur, il dépend de ce que Dieu nous protège, de ce que Dieu nous garde, de ce qu'on a cette assurance que le Seigneur nous conduit. Et oui, il nous protège. Vous avez vu, je vais peut-être terminer avec cette pensée. La seule fois, une des seules fois, quand même c'est bon, c'est écrit, où Jésus parle de ses sentiments, c'est lorsqu'il dit, mais il pleure. Il dit, combien de fois j'ai voulu vous rassembler et vous ne l'avez pas voulu. Et il pleure. Hein. Et on voit c'est une des premières fois, on voit les émotions du Seigneur, vous voyez. Bon, c'est rare, mais il ne le fait pas pour lui. Il le fait pour nous montrer à côté de quoi on passe. Vous comprenez bien? Le Seigneur n'est pas en train de se plaindre. C'est pas trop comme ça qu'il a fonctionné, le Seigneur. Le Seigneur est en train d'exprimer ses émotions profondes pour nous montrer à côté de quoi on passe lorsqu'on ne se confie pas en lui. C'est ça qu'il veut nous enseigner. Et moi, je ne voudrais pas qu'on ait des réunions pour avoir des réunions, mais que vraiment on puisse dire, mais Seigneur, tous les attributs, je vais tous les méditer. Tu ne seras pas mon bon berger, tu seras mon bon berger, tu seras mon conseiller, tu seras mon bouclier, tu seras ma forteresse. Est-ce qu'on peut se les approprier? Bien sûr, on peut s'approprier toutes ces choses. Oui, connais-tu de Dieu? Connais-tu de Dieu l'amour? Connais-tu de Dieu la fidélité? Connais-tu de Dieu sa puissance, sa provision, sa guérison? Moi, je me sens vraiment poussé à ce qu'on prie pour quelqu'un qui est malade, qu'il expérimente que l'Éternel, il est le Dieu qui guérit. On va fermer les yeux quelques instants. Je voudrais vraiment qu'on réalise ces choses, que vous ayez noté ces versets et que vous puissiez dire, mais quand je pense, je suis tout le temps en colère contre les uns, contre les autres. Vous avez vu celui qui a Dieu pour berger? Il se plaît à contempler les adversaires. Écoutez, vous l'acceptez, vous ne l'acceptez pas, mais moi je peux vous dire que c'est la vérité. Alors on reste dans le recueillement. Il faut qu'on fasse une prière. Seigneur, il te faut être mon bon berger. Il faut que je découvre ces pâturages, il faut que je découvre ces eaux paisibles. C'est pas normal que je me plaigne toujours. Oui, il restaure mon âme. Il ouinduile ma tête. Rendez compte, ta houlette et ton bâton me rassurent, il me protège. Mais est-ce que vraiment c'est le Seigneur que vous connaissez? Mes frères et sœurs, c'est sérieux, vous n'avez pas besoin d'une révélation. Je suis sûr, et je le répète, il y a des chrétiens qui veulent des révélations, en veux-tu, en voilà. Non, vous avez besoin de simplicité. Est-ce que Jésus est oui ou non ton bon berger? Est-ce que tu peux dire, je manquerai de rien jusqu'à mon dernier jour? La vie, la mort, l'éternité, tout est à moi. Est-ce que quelqu'un veut le vivre, ça? Oh, il restaure mon âme. Mais bien sûr, si vous aimez le péché, si vous vivez dans le péché, dans l'église, Jésus n'est pas votre berger, ça c'est clair. Mais s'il y a quelqu'un qui obéit, le Seigneur Jésus est votre bon berger. Il est bon, le Seigneur, il ne peut pas ne pas être bon. Alors qu'on reste recueilli, il y a peut-être quelqu'un qui dit, moi j'en ai assez de ma vie, de misère. Je suis toujours dans le désert, je suis tout le temps fatigué. Et pourtant, Dieu est mon rédempteur. Seigneur Jésus est mon sauveur, mais il n'est pas mon berger. Je ne sais pas ce que vous avez besoin, mais vous pourrez sortir tout à l'heure avec cette conviction que vous ne manquerez de rien, parce qu'il est le bon berger. Peut-être il y a quelqu'un qui dit, moi je voudrais qu'on prie pour moi. Je veux faire cette expérience, il ne faut pas qu'il soit que le sauveur. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Si Jésus est votre sauveur, croyez-moi, c'est bien. Mais on peut faire en sorte que Jésus soit plus que le sauveur. Est-ce que vous voulez qu'il soit votre bon berger, votre conseiller? Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur.